dans l'actualité des idées aujourd'hui, la mémoire de la langue, avec l'ancien directeur de la Bibliothèque nationale, ancien administrateur du Collège de France, l'écrivain historien arabisant André Miquel, connu pour ses travaux sur la géographie du monde arabe et notamment pour passer à la fiction sur les mille et une nuits, grand traducteur, spécialiste de la langue et de la littérature arabe classique, passeur de mots. Il publie en cette rentrée Le temps se signe à quelques repères chez Odile Jacob, un recueil de souvenirs, des fragments, écrits au fil des rencontres qu'il a réalisées et dont l'ensemble fait peut-être un parcours de Saint-Guilhem-le-Désert à Cordoue, de l'Auvergne à l'Éthiopie. Extrait en 2010, un fragment. Le camion est là, chargé de quelques 2500 livres de ma bibliothèque. Ils vont partir pour l'université d'Aix à laquelle je viens les donner. Au moins serviront-ils là-bas où j'ai occupé mon premier poste universitaire. Les étagères sont vides, les murs insolents de clarté, la page tournée. Je vis vive maintenant non plus de recherche, mais de souvenirs. Nous aussi, avec vous, jusqu'à 13h30. Bonjour André Miquel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et avec Antoine Mercier qui est à mes côtés pour vous interroger. Au singulier, ce petit mot ou ce grand mot de mémoire que vous avez mis en dessous du titre principal de votre livre, Le temps se signe à quelques repères, mémoire au singulier, ce ne sont pas vos mémoires.
Non, d'ailleurs, pardon, le mémoire au singulier était le titre initialement prévu et l'éditeur m'a convaincu que c'était moins porteur que ce que, en effet, Odile Jacob a proposé, à savoir le temps se marque à quelques repères. Donc la mémoire, ce sont des moments qui arrivent, fulgurants, tristes, heureux et autres. Et puis je n'avais pas envie d'écrire, en effet, ma vie. Je l'ai fait pour les 16 premières années de chez mon ami Domains, éditeur à Pézenas, en Languedoc. Ça tombait bien, en effet, les 16 premières années, c'était le Languedoc. Pour le reste, non. Je n'ai pas envie d'écrire mes mémoires. Je me contente de cela.
Ces fragments, vous les avez écrits pour vos enfants ou petits-enfants. Au départ, c'était des notes prises
Absolument.
Un peu sur le vif que
Absolument,
vous souhaitiez leur laisser. Vous en avez finalement fait un livre. Pourquoi ? Comme quoi, peut-être, c'est important aujourd'hui de faire œuvre de mémoire, quand même, pour
pas
un cercle plus large.
Je veux dire, non, c'est très simple. J'étais allé voir Odile Jacob pour une traduction en arabe d'un livre qui avait paru chez elle et qui traitait de le thème de l'amour de Majnoun, mon vieux poète arabe du désert, jusqu'à Tristan. Et Odile Jacob m'a demandé si je travaillais. Je lui ai dit non, j'ai terminé maintenant. De toute façon, je n'ai fait plus de recherche. Je vis maintenant de mes souvenirs. Et je lui avais dit, j'écris comme ça, au hasard, des pages que je garde pour ma fille et mes petites filles. Et Odile Jacob m'a dit, ça m'intéresse. Bon, très bien, le reste, lui montrer, et elle m'a dit, je prends. Bon, alors, il est difficile de résister à un éditeur qui vous accepte, et mieux, à un éditeur qui va au-devant de vous pour vous dire, je prends.
Elle doit être belle, la vie, quand même, d'un homme qui a grandi, vécu sa vie aux côtés, justement, de Majnoun, de Leïla, de Scheherazade. C'est un bel imaginaire pour avancer.
Oui, parce que finalement, je les ai rangés, cela, avec les amitiés et les passions dont je peux parler par ailleurs, parce que ils m'ont, notamment Majnoun, tenu toute une vie. En fait, si je peux, je n'ai pas l'air de trop parler de moi, c'est mon père, au retour de captivité, qui m'avait dit, on parlait comme ça, musique, et Wagner en l'occurrence, mon père m'a dit, tu as lu naturellement le Bédier, qui était le grand spécialiste. Je lui ai dit non. Alors je me suis mis à Bédier. Après, je suis devenu un fanatique de l'histoire de Tristan et Iseult. J'ai croisé leur chemin en travaillant sur le grand poète du désert, Majnoun, qui était une sorte de révolutionnaire à cette époque, puisqu'il clamait son amour à tout va, ce qui n'était pas tout à fait dans l'ordre des choses et de la société à cette époque. Et il avait inventé ce thème. Là, je crois, c'est là que c'est parti, un thème promis à une destinée universelle, l'amour impossible est le seul amour vrai, et l'amour vrai est impossible.
Antoine Mercier, des fragments, vous en avez lu quelques-uns, voire beaucoup, et ça fait un homme peut-être ces fragments, en tout cas une mémoire.
Ça fait une mémoire, mais je me dis, parfois, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe dans ce monde arabe, notamment depuis plusieurs années, on se dit, il n'y a pas vraiment d'écho de cette situation politique générale, et on se dit, après tout, vous êtes un peu, à la fois entièrement impliqué dedans, oui. Sur le, au fond, sans forcément être un acteur ou un observateur privilégié d'une situation. En tout cas, vous n'aimez pas beaucoup en parler, apparemment. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est le cas ? Pour quelle raison ?
En fait, ma vocation définitive pour l'arabe, je la dois à Nasser et aux 5 mois de prison que j'ai fait.
Il faut rappeler cet épisode, peut-être. Vous étiez à ce moment-là à l'ambassade.
Et donc, je me suis dit, là, j'étais parti, en fait, sur une thèse sur le cinéma et littérature dans l'Égypte contemporaine. Marqué de cette épithète infamante d'espion, il était évident que je ne pensais pas revenir dans un pays arabe dans les années qui suivraient. Et je me suis donc réfugié dans le classique.
Excusez-moi, parce qu'il faut qu'on comprenne que vous avez été en prison en Égypte.
Oui.
Pour quelle raison précisément ? Parce que vous avez été accusé d'espionnage, ainsi que certains membres d'ailleurs de l'ambassade, c'est ça ?
Pas de l'ambassade, c'était une mission diplomatique.
Une mission diplomatique.
Qui précédait une éventuelle reprise.
D'accord, et pour quelle raison avez-vous été comme
ça ? Ça, on ne l'a jamais su. Je pense que les services spéciaux égyptiens qui venaient de se faire taper sur les doigts parce que la Syrie venait de se détacher de l'Égypte, ont essayé quelque chose, ils ont monté quelque chose, et tant qu'à y être, ils ont eu la main lourde puisqu'ils nous ont accusés d'association de malfaiteurs, tentative de renversement du régime et tentative d'assassinat du président Nasser. Ça faisait beaucoup de choses. Il y a eu un procès dans lequel mes collègues et moi nous sommes vus condamné avant l'heure aux travaux forcés à perpétuité, et puis le procès ayant tourné à des confitures, bon, parce que nous n'étions pas des espions, mais c'est difficile à prouver. L'innocence est la chose du monde la plus difficile à prouver. Mais enfin, compte tenu du contexte politique qui avait changé, bref, Nasser a ordonné la suspension et la libération du procès. La rentrée en France, je me suis dit...
Depuis, vous faites plus de politique, en gros.
Bah, c'est ça. Je me suis dit... Je ne peux pas travailler sur le monde arabe contemporain, je me réfugie dans le classique. Mais à ma manière, j'ai poursuivi ce que je croyais devoir être, à savoir faire montrer à mes compatriotes que les Arabes ne sont pas réductibles à l'image, à travers l'islam, qu'ils donnent d'eux aujourd'hui, et montrer aussi aux jeunes générations d'Arabes qu'ils ont un héritage, un patrimoine à exploiter. Parce que ce meilleur patrimoine du Moyen-Âge arabe, il était parfaitement accordé à son temps. Le problème, c'est de faire le raccord aujourd'hui.
Alors effectivement, cette porte de prison s'ouvre au printemps 62, et en sortant de prison en Égypte, vous avez le sentiment de savoir enfin où vous allez. Vous l'écrivez dans un de vos fragments, ce sera la recherche et l'écriture, avec une nécessité pour vous, et là je vous cite, montrer aux Arabes que l'on avait retenus de leur plus vieille civilisation tout cela qu'il a fait nôtre sous ses propres signes, et quant aux Arabes eux-mêmes, les inviter à s'en inspirer pour renouer avec l'histoire et l'esprit de notre temps. Pour évoquer ce rapport entre le passé et le présent, la culture et les perceptions qu'on peut avoir aussi de cette autre culture et de cette autre tout court, André Miquel, en passant par la poésie et la littérature, est-ce que ça permet de connaître cet autre monde de l'intérieur pour vous ?
C'est ce que j'avais espéré trouver, là je n'ai pas été déçu. Parce que je suis vraiment spécialiste du monde arabe. L'islam, je le rencontre évidemment, ils sont musulmans. Mais ce que j'ai voulu au départ, c'est aller chercher si nous pouvions partager les choses. Évidemment, on les partage. Et il me vient, à propos notamment de la mort, de l'amour, de vers que j'ai traduit ainsi, d'un vieux poète des années 980, qui dit « Et la mort est ce feu en nous tous allumé, que chaque jour nouveau, un peu plus fort, ravive. » Ça pourrait être du Gérard de Nerval, du Ronsard, du Hugo, n'importe quoi. Autrement dit, c'est l'universalité de la culture universelle. Alors, vous allez, je pense, me poser la question, qu'est-ce qui fait l'originalité ? L'originalité, d'abord, c'est la langue. Et ça, aucun traducteur ne peut pousser jusqu'au bout le miracle de...
Bon, vous l'avez apprise assez tardivement, enfin, quand vous étiez après vos études à l'école normale.
Oui, j'étais destiné au français, au latin, au grec, avec une agrégation, il est vrai, de grammaire, comme on disait de mon temps, pour distinguer l'agrégation des lettres, qui était la grande agrégation. Et j'ai eu envie d'aller de l'autre côté de la mer. J'ai hésité longtemps, puisque je me suis retrouvé en Éthiopie, archéologue, à Damas pour un an pour essayer d'apprendre l'arabe sur place. Je ne l'ai pas appris, vraiment, parce que c'était ma première année de vie commune avec ma femme. Voilà, alors, il y a eu, fait grâce du reste, une tentation vers la diplomatie qui s'est finie dans la prison du Caire.
Et après, maintenant, vous accédez au texte en arabe directement, ouais. Effectivement.
Alors, vous avez fait beaucoup aussi de traductions par la suite à ce propos. Est-ce que la traduction est toujours pour vous une trahison ou est-ce que c'est surtout et avant tout un partage? On va écouter le traducteur et poète André Markowitz.
La traduction, c'est un exercice de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord de gratitude envers l'autre que nous rendons accessible à nous-mêmes. Mais on le rend accessible à nous-mêmes, non pas en le transformant en nous-mêmes, mais en trouvant en nous-mêmes, dans la langue française, dans les ressources de la langue française, de quoi rendre sa particularité. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai retraduit tout Dostoïevski, parce qu'on l'avait rendu français. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de montrer qu'on peut, en français, écrire autrement qu'un roman au XIXe siècle, écrire qu'un romancier français. C'est-à-dire rendre la langue française un peu étrangère. C'est ça. Et d'être reconnaissant envers l'étranger pour la richesse qu'il apporte à la langue française. Et oui, la traduction, c'est un exercice d'accueil. C'est-à-dire d'enrichissement de la langue française par... et par les particularités de l'étranger. Moi, je dis jamais que le texte que je donne à lire en français, c'est le texte original. C'est une version personnelle, ponctuelle, qui n'a de vérité que ma propre lecture, que j'essaie de rendre aussi partageable que possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut partager? C'est pas les émotions qu'on partage. C'est la pensée, c'est-à-dire le chemin de la structure, des images. Traduire, Mandelstam a dit « Нет, никогда ничей я не был современник », c'est-à-dire « Non, je n'ai jamais été le contemporain de personne ». Traduire, c'est ça aussi, c'est-à-dire être dans toutes les époques. Ça ne veut rien dire du tout, ce que je dis, mais c'est-à-dire refuser l'ici et maintenant. Considérer que nous ne vivons pas ici et maintenant simplement pour nous-mêmes, mais que nous sommes conscients d'une durée, et que c'est une durée polyphonique.
Rendre la langue française un peu étrangère par la traduction, nous dit André Markowitz. Qu'en pensez-vous, André Michel, de cet exercice d'accueil, d'enrichissement que serait la traduction? Ça vous semble être une bonne définition?
D'accueil, oui, bien sûr. Et comme je viens d'entendre dire, fort opportunément, fort justement, c'est à la fois assimiler quelque chose, le rendre, l'intégrer, et en même temps, au-delà, le faire passer, le faire exploser dans d'autres directions, y compris le renvoyer à l'origine pour d'autres recherches. Si, par exemple, nous prenons comment expliquer que la poésie, je parle de la poésie contemporaine, pas de la poésie classique, comme j'explique à mes étudiants, la poésie classique, c'est un discours mis en vers. Mais elle peut, cette poésie classique, retrouver la poésie telle que nous la définissons aujourd'hui, c'est-à-dire à travers un vocabulaire, quelque chose qui va au-delà. Alors, si vous voulez, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Dire que la poésie, les mots du poète, disent quelque chose, mais qui est à fouiller perpétuellement au-delà de la sensation première. Un des plus grands poètes arabes du Moyen-Âge le dit à sa façon. Fantastique. Mais évidemment, en arabe, c'est encore plus beau. Quand j'écris, mon acte poétique est tellement fort que lorsque j'écris, l'encre de mes vers devient blanche aussitôt. C'est extraordinaire. Bon. Et c'est beau en français aussi. Sauf, là, évidemment, les sonorités de la langue arabe.
André Michel, cette année encore pressentie, le poète philosophe syrien Adonis ne sera pas le Nobel Littérature 2016. Il a été coiffé au poteau par le musicien, interprète, écrivain, auteur Bob Dylan. Seul écrivain d'ailleurs en langue arabe consacré par le Nobel, c'est l'égyptien Naguib Mahfouz, oui. En 88. Pas d'autre consécration d'un écrivain en langue arabe. Comment vous expliquez ça pour vous qui êtes un passionné de cette langue? C'est une langue oubliée?
Alors, depuis longtemps, je dis que le monde arabe n'intéresse pas, ou sinon intéresse dans deux situations. Le folklore, le plus éculé, les images, bon, les palmiers, les minarets et le reste, ou la crise. Mais hors de ces deux situations, le monde arabe n'intéresse pas. Et j'en ai évidemment souffert, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, si on me dit que je ne suis pas engagé dans les luttes du moment, je le suis dans tout ce que j'ai essayé de faire, dans mon œuvre de passeur, c'est un mot à la mode, pour expliquer ce que je voulais, c'est-à-dire la concorde. Bon, chaque civilisation, je crois, a un jardin secret, où on n'entre pas, sauf sur invitation. Pour moi, c'est l'islam en tant que religion, ça n'est pas la mienne, je la respecte en tant que telle, dans la mesure où elle se respecte elle-même. Compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que je suis clair. Et bon, ça, l'islam, je n'ai jamais. Et la musique orientale. J'écoute sans déplaisir un concert de musique orientale, mais ça n'est pas la mienne. Je n'ai pas en moi ce que les Arabes appellent tarab, c'est-à-dire le frémissement viscéral lorsque on aime une musique. Alors, je reviens à ce que j'ai dit, c'est cela que j'ai voulu. Il y a le jardin secret auquel on entre sur invitation, et puis l'autre, tout autour, immense, tout ce qu'on peut partager sans donner la carte à l'entrée.
Mais alors, quels écrivains vous nous recommanderiez? Parce que des auteurs dont l'œuvre littéraire a fait preuve d'un puissant idéal, pour reprendre les mots du Nobel, le Proche-Orient et le Moyen-Orient n'en manquent pas, a priori. Quelles sont pour vous ces voix un peu oubliées ici en Occident, ces écrivains, ces plumes qu'il faudrait redécouvrir absolument pour se comprendre?
Anciens ou d'aujourd'hui?
C'est à vous de choisir.
Pardon?
À vous de choisir.
À moi de choisir. Alors, j'ai une faiblesse pour Abul Ataïa, dont je citais Devers tout à l'heure. Un peu, je dois dire, par facilité. Parce que c'est un des écrivains arabes le plus facile d'accès. Avec un vocabulaire simple qui évite d'aller au dictionnaire, bien. Et donc, pour l'Antiquité. Aujourd'hui, Adonis, incontestablement. Bon, il y en a d'autres, Salah Hamdani, bon, Hegazi, bien. Mais voilà pour les poètes et incontestablement pour les prosateurs, Negi Marfouz, qui est l'homme, bon, heureusement couronné prix Nobel, ce qui, par parenthèse, on n'a plus eu de prix Nobel pour le monde arabe depuis pas mal d'années.
Hein. Non, mais depuis 88, depuis Negi Marfouz, il n'y en a pas eu d'autres avant non plus.
Bah, Adonis, par exemple, mériterait un prix Nobel.
Bon, on le cite tous les ans, mais bon. Je m'excuse de vous sortir peut-être de ce jardin secret de la poésie pour vous ramener, bon, pas forcément à aujourd'hui, mais au moins à hier. Car vous expliquez bien que, à ce moment-là, de ce que vous appelez le Moyen-Âge arabe, tout ce monde arabe était tout à fait, non seulement connecté sur l'ensemble du monde de ce qui se passait, mais en plus apportait, enrichissait, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé, selon vous, pour que, tout d'un coup, malgré tout, il tombe dans une sorte, sinon d'obscurité, du moins d'obscurantisme?
Alors, je reviens à un de mes héros préférés, le calife Mamoun, pas Haroun al-Rachid, son successeur. Voilà un homme qui...
Quelle année, il faut vous préciser.
Dans les années 813-833. Voilà un homme qui décide d'ouvrir le monde musulman au monde. Renforcement des traductions du grec en arabe. Création d'un institut des sciences. Mesure du méridien terrestre. Encouragement des artistes, des arts, philosophie, sciences, etc. J'ai écrit là-dessus un livre qui est tombé dans l'oubli presque aussitôt que paru, qui s'appelait « Les entretiens de Bagdad », où j'imaginais, dans la pure tradition arabe, des entretiens, des audiences savantes, revoir un peu ce qu'on passait. C'était un monde en pleine ouverture sur le monde. Mais très vite, dès la mort du calife, les religieux, strictement religieux, ont pris le pouvoir et n'ont pas tué dans l'œuf, parce que fort heureusement, les scientifiques continuaient à travailler, les philosophes ont continué à penser, mais sans cette couverture extraordinaire que leur donnait un pouvoir lui-même éclairé.
Combien de temps ça a duré ?
20 ans. 813-833.
Et donc, c'est...
Si je ne m'abuse pas, je sais que c'est 20 ans ou 23, 33, non, non, c'est 813, 833. Excusez-moi, je n'ai plus que des souvenirs, je ne fais plus de recherche. Voilà.
Et c'est ça que vous souhaitez finalement réouvrir aussi, y compris aux jeunes générations, cette possibilité-là.
Bien sûr.
Qui aujourd'hui n'apparaît plus.
Alors, il se trouve que quelqu'un, que je ne citerai pas, de haut placé m'a dit, voilà un livre qui vient à son heure, après l'inauguration du département d'antiquité de l'art musulman au Louvre. Bon, j'ai attendu, j'ai eu un compte-rendu sur Internet, et puis c'est tout. Alors, c'est ça qui me fait mal, parce que là, c'est là que je me sens utile, vraiment. Et quand on me refuse cet accès, je suis malheureux. C'est pourquoi, excuse-moi, je ne fais pas de lèche, mais je profite de ce qui m'est dit pour me dire que la radio m'a toujours bien accueilli, notamment pour mes publications côté Orient avec Abdelwahab Meddeb, dont je salue vraiment la mémoire, donc plus que la presse et la télévision.
Grand producteur de France Culture, merci de l'évoquer et de lui rendre hommage. André Miquel, vous avez dirigé la Bibliothèque Nationale, vous avez été l'administrateur du Collège de France. Je ne savais pas qu'on parlait comme ça d'ailleurs au Collège de France, je ne fais pas de lèche. C'est là que vous avez appris à parler comme ça. Et vous êtes en tout cas, et on en est ravis, notre invité jusqu'à 13h30 pour cet ouvrage, ce recueil de fragments, de mémoires. Le temps se signe à quelques repères. Il est 13h17 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Les lumières contre l'obscurantisme. Vous aviez évoqué à l'instant, André Miquel, cette question de la religion, de l'islam. Vous le dites, ce n'est pas ma religion, mais je la respecte. Je respecte l'islam si elle se respecte elle-même. Les lumières contre l'obscurantisme, réconcilier l'islam en le réformant, c'est le travail d'une vie pour l'anthropologue des religions et philosophe algérien Malek Chebel, décédé récemment. On l'écoute.
Je crois qu'il n'y a pas d'intérêt de faire un livre pour réformer l'islam en disant que tout va bien. L'intérêt de ce livre, et comme tous les livres d'ailleurs qui portent un point de vue un peu décalé, un peu critique, mais sans être agressif. Je ne veux pas être agressif vis-à-vis des... Je veux leur dire ce qui ne va pas, et tout en les aimant. Parce que moi, je prétends que pour changer quelqu'un, ou une communauté, il faut d'abord l'aimer. Et moi, je l'aime profondément. Donc à partir de là, je porte le fer là où ça fait mal. Moi, je trouve que c'est étonnant d'en arriver jusque-là, dans l'obscurantisme, mais voulu, maîtrisé, professé. Il y a une profession de foi là. On vous dit, tout ce qui a été fait après le prophète et les quatre premiers califes, c'est-à-dire, ça va loin, au 7e siècle, tout ce qui a été fait après est mauvais, est impur, il ne mérite pas d'être appelé réalisation musulmane ou islam. Donc à partir de là, vous voyez, la négation, elle va loin. Donc je dis non, il faut être sérieux, il faut reprendre sa raison et considérer que l'islam, dans sa complexité, dans son impureté, est encore l'islam. Moi, je trouve que l'islam et les musulmans, il faut les prendre tels quels. Si on veut les changer, il faut d'abord les comprendre. Vous voyez, moi, je donne beaucoup d'importance à la connaissance et au savoir. Et moi, la rationalité, elle commence là, dans l'éducation véritable, l'éducation au sens critique. Et à partir de là, on peut changer les choses. Je dis qu'un islam lumineux, un islam de beauté, doit être un islam de la réforme, un islam du mouvement. Et donc, c'est le mouvement que j'essaye d'introduire.
Si on veut les changer, les musulmans, il faut d'abord les comprendre, nous dit Malek Chebel, André Miquel. Et pourtant, en France, on ne cesse de parler de réformer l'islam. Mais est-ce que vous êtes, vous, bien sûr, qu'on l'ait compris, cette religion, avant de vouloir la réformer ou la changer?
Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, évidemment. Autre disparu, vraiment, je trouve qu'il s'accumule depuis un certain nombre de temps. Et c'est dommage. Oui, il a raison, parce que toute religion est fille de son siècle. Bon, il y a dans le Coran, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les musulmans éclairés qui le disent, il y a deux stades. Le stade de la révélation, mettons la révélation à la limite mystique, en tout cas éclairée, fulgurante, comme chez d'autres penseurs d'autres religions. Et à partir de l'installation de l'État musulman à Médine, un autre islam... Enfin, je sais qu'on me dira c'est le même, oui, mais un islam, des textes, pour le dire franchement, des textes qui fondent une religion dans le siècle. Alors il faut savoir, en effet, Où est le vrai ? Pour moi...
Mais attendez, le stade de la révélation et les textes, c'est pas le Coran, c'est pas la même chose ? Quelle est la différence que vous faites ?
Non, les musulmans disent que c'est un texte révélé
oui,
d'un bout à l'autre.
Oui, absolument, bon,
oui.
Incréé même.
Alors ça, moi, je n'entre pas dans le débat. Je regarde le texte que j'ai, et autant qu'on puisse en être sûr, vraiment, il y a un premier Coran, qui est le Coran de la révélation, avec des pages superbes. J'ai moi-même traduit chez Odile Jacob une de ses courtes sourates qui s'appelle l'événement, qui est superbe. Et évidemment.
Ah, vous parlez de la première partie du Coran, en fait.
La première partie.
D'accord, non, parce que vous dites un autre Coran, donc c'est la première partie
oui,
du Coran.
Qui est en fait la dernière dans le.
C'est ça.
Dans la, oui, la mise en forme. Et puis l'autre partie du Coran qui fonde la société musulmane, bon, qui s'inscrit désormais dans l'histoire et qui fonde cette société par référence aux codes de cette époque. Le problème de savoir si les codes de cette époque sont aussi les codes d'aujourd'hui, notamment pour le statut de la femme, pour ne citer que cela.
En tout cas, il semble que cette partie-là, la partie rigoriste, ait pris le dessus.
Mais oui.
Il faut quand même peut-être aussi en rendre raison de cela, parce qu'il y a une force peut-être théologique telle sur l'unité de Dieu, le fait qu'il intervienne partout à tout instant, qui fait que la possibilité de trouver un espace libre dans tout ça, pour l'homme, c'est pas si facile.
Oui, sur le fait que ce à quoi nous assistons en ce moment a d'autres causes. Je crois que la religion, enfin, ça n'est pas moi qui le dis, c'est tous les spécialistes, à savoir des raisons sociales, pauvreté, problème des cités, manque aussi de perspectives pour le monde arabe dans l'histoire qui se fait aujourd'hui, alors que normalement le monde arabe en tant que tel devrait peser très fort. En fait, il est éclaté. On se demande même s'il ne prend pas plaisir à se faire éclater lui-même de part et d'autre, enfin.
Alors justement, André Miquel, il y a des projets qui sont lancés pour tenter de faire des ponts ou en tout cas ouvrir la culture arabe et musulmane au plus grand nombre en France, hein, pour la vision d'un monde pluriel, comme dirait le ministre. La première pierre de l'Institut français des cultures musulmanes a été posée hier. Ce projet est vieux de plus de 30 ans, il a été enfin réhabilité, en tout cas il va se concrétiser, mais c'est quand même un projet qui croule sous les critiques de part et d'autre, à gauche comme à droite, principe contraire à la laïcité, enfin on retrouve les critiques habituelles, le risque d'ingérence de pays étrangers dans l'islam de France. Est-ce que vous défendez ce type de projet ? On se souvient qu'en 2012, il y a 4 ans, vous aviez défendu, vous, l'ouverture du département des arts de l'islam au Louvre. Vous jugiez ça nécessaire, important d'ouvrir des espaces culturels à cette civilisation qui a aussi fait participer à l'histoire du monde. Sur ce projet d'Institut français de la culture, vous le défendez là aussi ? De culture musulmane, pardon. Je ne sais pas, au bout de la
phrase. Vous me direz que je me défausse, mais j'attends de voir. Parce qu'en effet, quand l'Institut du monde arabe a été fondé, notamment avec Philippe Ardan, dont je salue la mémoire, trop oublié aujourd'hui, nous avions un projet, c'était de demander au gouvernement français d'assurer le fonctionnement de l'Institut du monde arabe. Tout le budget de fonctionnement et les postes d'administration. Et d'inviter les pays arabes à des projets qu'ils nourriraient eux-mêmes, enfin, qu'ils subventionneraient eux-mêmes. Bon, ça n'a pas été le cas. On a voulu faire une structure mi-français, mi-arabe. Je ne juge pas. Je trouve que l'Institut du monde arabe est toujours une structure essentielle dans le monde politique actuel. Parce qu'en effet, ce n'est pas l'Institut de l'islam, c'est l'Institut du monde arabe. Et que très vite, fort heureusement, il a été question d'ouvrir cet institut au monde arabe tel qu'il était aujourd'hui en vertu de son héritage et tel qu'il est aujourd'hui en vertu de ses principales composantes, musulmans, chrétiens et juifs, qui coexistent sur la carte. Du moins, qui coexistaient. J'espère que ça continuera.
J'ai l'impression, André Miquel, que vous êtes l'homme qui pourrait justement apporter quelque chose, une pierre à cet édifice de réconciliation ou de cohabitation, de coexistence qu'on recherche, et que votre voix n'est pas vraiment entendue, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il ne faudrait pas que vous essayiez de prendre un autre discours, de lancer un appel, enfin je ne sais pas, vous sortir de ce que de votre retraite, parce que vous nous avez dit maintenant vous êtes retraité, vous ne faites plus de recherche, mais vous pouvez continuer à agir quand même, même si vous êtes déjà, vous avez passé les 80 ans.
Oui, plus près de 90 même. Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui grâce à vous? Moi je ne demande pas mieux que d'être invité ici ou là. Bon, je peux vous dire, je ne veux pas entrer dans les détails, mais quand j'étais administrateur du Collège de France, j'ai réussi à convaincre mes collègues, les trois quarts, en poste et retraités, de signer un texte commun à propos de ce qui se passait en Bosnie. J'ai envoyé ce texte avec la signature des 50 ou 60 professeurs au Collège de France, avec leur spécialité, à trois quotidiens, aucun n'a publié. Ce jour-là, j'avoue que je me suis senti découragé pour l'avenir. Voilà.
Mais pourquoi? Comment vous expliquez aussi qu'aujourd'hui, ces paroles d'apaisement, d'ouverture, de tolérance sur une autre culture ne soient pas entendues ou aient du mal à trouver racine? C'est pas simplement une question de médiatisation, parce qu'il y a des espaces qui sont ouverts. Oui. Mais on a l'impression que même si vous parlez, vous serez peu audible.
Oui, parce que je ne suis pas sacralisé par les médias.
C'est l'émetteur, c'est pas le récepteur pour vous qui vous questionne.
Encore une fois, mon militantisme, le mot est peut-être un peu gros, il est là, dans essayer de faire comprendre, comme je l'ai dit, c'est essentiel, dans les deux sens, à mes compatriotes et aux jeunes générations aussi.
Vous êtes un grammairien, vous l'avez dit tout à l'heure, agrégé, il est vrai, de grammaire. La grammaire arabe, j'imagine que vous l'avez découverte et vous l'avez apprise. Oui. Est-ce que au niveau de la structure même, on arrive à voir à la fois des ressemblances et des différences de couleurs? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le profond de la langue et du rapport entre les deux langues?
Bon, heureusement qu'il y a le sens qui est fait pour être véhiculé dans toutes les langues. Quant à l'expression de ce sens, alors là, vraiment, les différences sont considérables et merveilleuses. Et merveilleuses. Je vous donne une minute, même pas. Un exemple. L'arabe, comme les langues sémitiques, fonctionne sur trois consonnes. Un sens dit dans trois consonnes. Et là-dessus, avec des préfixes, des infixes, comme on dit, et des suffixes, on fait ce qu'on veut. Si vous prenez la racine, les trois sons, les trois consonnes, « che », re, que. Je vous fais grâce des infixes, etc. Mais sur la même racine, vous avez ce que le Coran traite d'associationniste, car la racine veut dire réunir. C'est-à-dire ceux qui donnent des pareils à Dieu. Et aujourd'hui, les socialistes.
Merci.
Mouchrikoun et Ishtirakiya, c'est la même racine. Alors, c'est extraordinaire quand même comme flexibilité.
C'était une courte leçon de grammaire, mais merci beaucoup André-Michel. Ça fait partie de ces fragments que vous avez réunis dans Le Temps se signe à quelques repères. Mémoire sans S qui vient de paraître chez Odile Jacob. Merci d'avoir pris le temps de venir autour de notre grande table. À vous aussi Antoine, merci. Et à toute l'équipe qui m'a aidé tout au long de cette semaine pour la préparation, à Claire Maillot et Clémence Marie d'un côté, assistée de Farah Kéram et Inès Magriff, et Jean-Christophe Brianchon et Henri Leblanc à la réalisation aujourd'hui. Gras avec Stéphane Poitvin. La Grande Table se retrouve sur les réseaux sociaux et puis je vous rappelle que vous pouvez aussi aller chercher toutes les informations que vous souhaitez et qui sont disponibles à la page de l'émission sur franceculture.fr. À lundi.